au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
De retour à Mythes et Complots sur les sensitifs, les dons paranormaux, on s'attarde à la voyance. On parlait plutôt du projet Stargate.
Voilà.
Et Christian, ici au Québec, dans les années 80, des oui. disparitions d'enfants.
Oui. On a connu, effectivement, on a retrouvé un sensitif. Parce que bien sûr, Jeff, on a parlé de l'idée que les services de renseignement américains utilisent des médiums, ou pardonne-moi l'expression médium, mais utilisent des voyants
oui.
pour essayer de faire de l'espionnage. Mais évidemment, sur le terrain, au jour le jour, on se dit, si ces gens-là sont réellement doués d'une habileté paranormale, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser de manière efficace sur d'autres choses? Et bien sûr, la première idée qui nous vient en tête, c'est l'investigation policière. Or, on le sait, il y a des séries entières qui ont été tournées aux États-Unis. Il y a aux États-Unis de ces voyants qui se déclarent eux-mêmes détectives psychiques qui se sont fait de véritables carrières. On pense à Nancy Meyer, on pense à Dorothy Allison, Maureen Renner, des femmes qui ont écrit des ouvrages entiers où elles racontent leurs investigations avec les services de renseignement comme le FBI, les services de police. Donc, elles ont été impliquées dans des enquêtes. Or, sur le terrain, ici au Québec, on a un cas qui reste au Québec relativement unique.
Oui. C'est inexplicable. C'est fascinant ce que vous allez entendre.
Il est absolument fascinant. Parce que, bien sûr, on entend souvent dire « Ah, j'ai des médiums ou des sensitifs. J'avais prévu ci ou j'avais prévu ça, mais souvent après coup. » Alors, voici une histoire qui est tout à fait remarquable. D'abord, notre affaire commence le 1er novembre 1984. Il y a trois enfants qui disparaissent de la région de Montréal. Ce 1er novembre, on a le jeune Maurice Vien, 4 ans, qui disparaît de la région centre-sud de Montréal. Et puis, quelques heures après, Sébastien Métivier et Wilton Lubin, deux autres enfants qui jouaient ensemble à Maisonneuve-Rosemont, dans le quartier Maisonneuve-Rosemont, disparaissent à leur tour. On comprend qu'à ce moment-là, les policiers ne savent pas s'ils ont affaire à un seul ravisseur ou plusieurs ravisseurs, mais tu auras bien compris que trois enfants qui disparaissent le même jour, à peu près dans le même secteur, les policiers ont tendance à croire qu'il doit s'agir du même ravisseur. Alors, évidemment, la première réaction, c'est des recherches locales. On entreprend de fouiller, on regarde sous les galeries, les hangars abandonnés, on essaie de retrouver ces enfants. Et puis, à un moment donné, quelque chose comme une journée ou deux après la disparition des enfants, on va retrouver près de l'autoroute 20 le blouson de Maurice Vien. Là, le problème, il vient de s'élargir parce qu'on croyait que ces enfants étaient gardés à Montréal, mais la découverte du blouson de Maurice Vien semble bel et bien indiquer qu'il n'est plus dans la métropole. Alors, ce qui était une enquête municipale pour la police de Montréal devient soudainement une enquête à l'échelle provinciale et oui. qui, sinon à l'échelle canadienne, parce qu'on le sait, la transcanadienne relie le Canada d'un bout à l'autre. Alors, évidemment, des groupes de bénévoles s'organisent et on demande, les policiers demandent, on envoie des signaux, on demande aux gens d'être vigilants. Si on a vu une voiture suspecte, on a vu quelque chose d'étrange, on demande, on met des lignes à la disposition du public.
Et un an auparavant, Christian...
Voilà. C'est au moment où tout ça se passe, il y a un groupe de bénévoles qui vont se tourner vers un médium de la couronne... Un médium, pardon, encore une fois, un voyant de la couronne nord de Montréal, que nous appelons Monsieur X et qu'on va appeler aujourd'hui aussi Monsieur X. Donc, ce Monsieur X n'est pas un inconnu pour ces bénévoles. Ils le connaissent. Un an plus tôt, en juillet 1983, dans le parc des Voltigeurs à Drummondville, il y avait une fillette de 5 ans qui avait disparu, qui s'appelait Mélanie Dequin. Et à ce moment-là, ces bénévoles qui avaient été impliqués dans cette recherche de la petite Mélanie Dequin avaient fait appel à ce sensitif. Ils le connaissaient, ils avaient eu des relations avec lui, alors ils décident de faire appel à ses habiletés. Ce Monsieur X va révéler des informations. Il dit, bon, je crois que la fillette se trouve à peu près à 7 kilomètres du parc des Voltigeurs. Une information d'ailleurs que les policiers ne prendront pas en compte parce que pour eux, ils sont persuadés que la fillette se trouve dans les boisés juste autour du parc. Donc, on ratisse les boisés autour du parc. Alors que lui, notre sensitif, parle plutôt d'une distance de 7 kilomètres. Il parle également d'un ou deux agresseurs, mais il a de la difficulté. C'est curieux, on dirait parfois deux personnes qui s'entremêlent. Or, éventuellement, on va retrouver la petite Mélanie de Caen quelques jours plus tard. Elle se trouve à 6,7 km du parc des Voltigeurs et on va retrouver son agresseur. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Daniel Derry et curieusement, c'est un homme dans la vingtaine, mais il est attardé mental. Il a à peu près l'âge mental d'un enfant de 12 ans, ce qui correspond un peu à ce qu'avait dit M. X. Alors, on revient à ce 1er novembre, en tout cas à ce novembre 1984. Nos bénévoles qui avaient déjà été impliqués dans cette histoire avec Mélanie de Caen se disent « Mais pourquoi ne pas encore une fois faire appel à ce M. X? » Alors, il se retrouve chez lui. Ils vont le questionner, le mettre dans une espèce d'état de détente. Et là, à partir de là, M. X va fournir des détails d'ordre géographique pour guider les bénévoles. Et on a une chance extraordinaire.
Oui.
Avec les années, j'ai rencontré ce M. X. On a développé une belle relation. Je l'aime bien, il m'aime bien. Et je suis très content qu'on l'ait avec nous aujourd'hui. M. X, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Écoutez, je suis très, très, très heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui pour nous parler un peu de cette histoire-là. Écoutez, je dois vous le dire, à quelques reprises, j'en ai parlé et l'affaire semble tellement extraordinaire qu'on m'a presque accusé de vous avoir inventé. Alors, allons-y. On se replonge dans cette histoire de novembre 84, lorsque ces bénévoles se rendent à votre domicile. Ils vous questionnent. Alors, que se passe-t-il ensuite?
Qu'est-ce qui se passe? Disons que je travaille dans certains cas quand ces choses-là me font mal. Là. Et puis, là, à partir de là, je peux travailler et puis je peux développer. Et puis, à partir de là, ces gens-là sont venus me voir et puis on a fait du travail ensemble qui a heureusement porté fruit. Là.
Si je me rappelle bien, parce qu'on a déjà abordé ensemble cette question, donc ces bénévoles vous rencontrent, vous leur fournissez des informations, vous n'êtes pas sur le terrain, vous les guidez un peu à distance et vous les amenez finalement, en suivant ces références d'ordre géographique, vous les amenez à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu où éventuellement ils vont trouver le corps du petit Maurice Vien.
C'est exact, oui, c'est exact. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que moi, quand... Dans des cas semblables, je ne vais pas sur les lieux, là. J'ai assez de voir les choses, les sentir, et puis ça me ferait trop mal d'aller sur les lieux, là. C'est pour ça que je fais affaire avec ces gens-là, et je suis bien comme ça, là.
Mais, M. X, lorsque vous avez visualisé l'endroit précis où se trouvait le corps du jeune Maurice Vien, 4 ans, combien de temps ça vous a pris? Est-ce que vous fermez les yeux? Est-ce que vous vous mettez dans un état de concentration extraordinaire, en fait?
Ben, c'est je me mets dans un état de concentration, oui, extraordinaire, très profond même, et puis vous pouvez pas savoir comment d'énergie ça demande aussi, non. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie.
Dans cette histoire, M. X, il y a quelque chose dont on a souvent abordé ensemble. C'est un peu votre surprise, en fait, d'apprendre la nouvelle qu'on avait. Parce que, bon, il faut se rappeler que les bénévoles arrivent sur place. Ils sont guidés à partir des informations d'ordre géographique. On n'entrera pas trop dans ces détails-là. Mais finalement, ils arrivent à Saint-Antoine-sur-Richelieu. On va éviter les détails sordides et les détails macabres. Ils vont trouver le jeune Maurice Vien. Et à ce moment-là, bien sûr, lorsque la Sûreté du Québec arrive sur place, parce qu'évidemment, on pouvait fouiller partout au Québec, et eux sont allés spécifiquement, ils ont ciblé spécifiquement cet endroit-là. Lorsque les policiers arrivent, ces gens-là sont amenés, évidemment, ils disent, on a été guidés par un voyant. Ils sont amenés au poste à Montréal pour être interrogés. Vous, vous apprenez la nouvelle de quelle façon?
Moi, j'apprends par la radio, cette journée-là, que le corps du Vambin a été retrouvé à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Oui.
Puis, on n'a pas donné la chance, on n'a pas cru bon de dire à mes amis de m'appeler, là, tu sais.
Oui.
Parce que tout de suite, on m'a isolé, là. On m'a isolé, là, pensant que j'allais craquer là-dedans, là. Puis, il y avait un plan, un genre de plan de travail, eux autres, là, bien précis. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, ils travaillent comme ça, là. Et...
Donc, si je comprends bien, au départ, après... entre guillemets, la mise en interrogation des bénévoles qui avaient retrouvé le corps de Maurice Vien, vous avez eu vaguement l'impression qu'on vous suspectait d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du Bambin.
Définitivement, je suis pas idiot, là, parce que quand les gens-là sont partis avec les policiers de la Sûreté du Québec, je voyais bien, j'ai dit, d'une chose ou l'autre, on va m'appeler, ou bien donc on va venir dans l'ignorance.
Mm-hmm.
Et puis, à partir de là, on m'a pas appelé. Fait que j'en ai conclu qu'on venait dans l'ignorance, parce que l'histoire était tellement... il contenait tellement de détails.
Oui.
Que les policiers pensaient à ce moment-là que j'étais le rhum, là.
Oui, que vous étiez l'assassin.
Oui.
Vous êtes éventuellement, vous êtes vous-même, entre guillemets, livré à la police le lendemain.
Je ne sais pas si c'est le lendemain, mais oui, j'ai appelé
oui.
à la Sûreté du Québec au crime contre la personne, là. Et puis, à partir de là, j'ai demandé. Je connais un peu de gens qui travaillent là. J'ai demandé qui était là. Et puis, on m'a mentionné, entre autres, un officier, un détective.
Oui.
Il s'appelait Massicotte.
OK.
Son prénom, surnom, Bill. Bill Massicotte.
OK.
Et passez-moi ce gars-là, là, s'il vous plaît.
Et, M. X, on va poursuivre après la pause. Merci d'être des nôtres. Je vais vous demander notamment, on va poursuivre avec l'histoire... que vous avez entamé, mais je vais vous demander notamment comment vous avez découvert votre don.
OK.
Donc, M. X, merci.
Gardez
on
la
revient
ligne.
Dans deux minutes à Mythes et complots sur le réseau Cogeco.
OVNI, fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco.
Et on est en plein dans une histoire inexplicable. Ça se passe en 1984 au Québec. Des bénévoles, lors d'une recherche d'un corps d'un jeune enfant disparu, font appel à un voyant. Et le voyant détaille des points géographiques, également la couleur de certaines choses
oui.
près des lieux de la découverte, des barricades sur la maison
mm-hmm.
dans laquelle se trouvait le corps du jeune enfant. Et on a en ligne avec nous, puis on poursuit avec ce voyant, Monsieur X. Rebonjour.
Rebonjour.
On parlait d'un certain personnage, Bill Massicotte.
Oui, donc c'était le policier de la Sûreté du Québec avec lequel vous avez eu ce premier contact avec la Sûreté du Québec. Racontez-nous un peu comment, au moment où vous arrivez sur place, comment on vous accueille. Vous êtes quand même le voyant que l'on suspecte peut-être d'avoir joué un rôle dans la mort du jeune Maurésien. J'imagine que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu intimidant.
Premièrement, je ne vais pas les rencontrer.
OK.
Je demande à eux de moi, je vais pas aller à Montréal, là, puis non.
Okay.
Non.
Ils viennent à vous.
De venir me rencontrer, puis à partir de là, on a commencé à discuter, là. Mais j'étais déjà furieux à savoir de la manière qu'ils procédaient, la manière qu'ils me croyaient impliqué là-dedans, OK?
Mm-hmm.
Puis j'étais pas trop content de leur manière d'agir.
OK. Et quand on fait un petit peu un retour en arrière, quand vous avez fourni ces informations donc aux bénévoles, mon ami Jeffrey, durant la pause, me disait « Mais comment ça se passe? Comment vous voyez ça? Est-ce que ce sont des flashs? Est-ce que ce sont des images, des mots qui s'inscrivent dans votre esprit? Comment ça se passe lorsqu'on a cette habilité de voyance? »
Bien, ça se passe dans mon cas, moi, là, c'est ça, de la méditation profonde, OK?
Mm-hmm.
À partir de là, là les choses commencent à apparaître, là. Et puis, quand un cas comme celui-là, aussi pathétique que ça, là, m'intéresse, et puis je développe.
Mm-hmm.
Mais comme je vous dis, c'est très exigeant, c'est pas facile, et puis ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie.
Oui.
Et on vous laisse éviter les détails macabres, mais il y avait beaucoup de détails dans ce que vous avez fourni, la couleur, le nom des rangs peut-être même.
La position du corps, entre autres.
La position du corps. Alors, vous n'êtes jamais allé à Saint-Antoine-sur-Richelieu?
Ah, je suis allé, mais longtemps après, là.
Longtemps après.
Donc,
oui.
vous avez vu les lieux où le corps du jeune Maurésien avait été retrouvé?
Oui, exactement. Oui, j'ai vu ça.
Mais par après. C'est important spécifier quand même.
Oui.
Après, j'avais décidé d'y aller là, par rapport à... Je ne sais pas ce qui s'était passé. Là.
Okay. Vous, M. X, après cette rencontre avec les policiers, vous êtes un peu... je pense que c'est une expérience qui vous a quand même un peu choqué et qui vous a un peu refroidi, entre guillemets, sur cette idée de collaboration avec les forces de police.
Évidemment, oui. Ah oh, oui, parce que c'est pas une manière de travailler. On travaille ensemble, OK?
Mm-hmm.
Ou bien donc, on travaille pas, là.
Mais est-ce qu'on vous a accusé formellement du meurtre de Maurice Vien?
Non, on m'a pas accusé. Pas à ce que j'en sache moi-même. Peut-être qu'entre eux, là, on disait que j'étais leur homme, là. Ça se peut fortement parce que je donnais tellement des détails, tellement précis, qu'ils n'en revenaient pas aux autres, là. Ils n'en revenaient pas. Puis en plus de ça, à un moment donné, moi, j'ai dit, c'est terminé, là, OK? Vous avez, je vous disais les informations, c'est terminé. Moi, je travaille plus, là. Mm-hmm. Et puis, on m'a forcé à continuer.
OK.
À travailler. Et puis, j'avais mis une condition qu'on me paye.
Mm-hmm.
OK, on avait acquiescé à ça, mais j'ai jamais vu la couleur de l'argent de ça, là.
Donc, la Sûreté du Québec vous a demandé par la suite des informations supplémentaires par rapport à d'autres disparitions?
Non. Pour ce cas-là.
Ils voulaient un
pourcentage.
Parfait.
Pour valider eux ce qu'ils pensaient, là. Et puis, à un moment donné, j'ai sorti d'autres choses, à savoir, j'ai dit, il y a une lettre qui a été postée. Et puis, le point précis de ça, j'ai dit, c'est la marina de Repentigny.
Okay.
Je savais pas c'était quoi la lettre, mais je savais qu'une lettre avait été postée.
Okay.
Puis là, ça a fait quelque chose là-bas, là. C'est incroyable, là. Mm-hmm. Là, ils sont quasiment devenus débiles avec ça. Là, ça renforçait la thèse que j'étais sûrement leur homme, parce que ça, là, ça, c'était pas bon.
Ouais.
Parce que cette lettre-là, et le contenu de cette lettre-là, c'était le raviseur qui demandait une rançon de 10$.
OK.
Oui, dans le temps. Je ne sais pas si c'est un fait connu, là, mais je vous l'apprends aujourd'hui. L'individu demandait une rançon de 10$. Donc, c'était pas quelqu'un de très normal, là.
Oui.
Et puis, il se demandait, eux autres, comment sait-il que je fais savoir ça?
Mm-hmm.
Ah, ben, ça a fait un autre drame, là, dans la bâtisse, là.
Oui.
C'était pas beau. C'était pas beau à voir. Là.
Parce que nous, M. X, on se connaît quand même depuis de nombreuses années. Moi, je dis à Jeffrey qui est devant moi, j'ai vu, on en a longuement parlé, des informations, des détails très précis que vous aviez fournis dans cette histoire-là.
Oui.
Et je dois moi-même avouer, après avoir vu ce que vous avez fourni aux bénévoles, on peut comprendre quand même que les autorités, pour eux, il ne pouvait y avoir la seule personne qui pouvait avoir fourni les détails ou qui pouvait connaître les informations que vous avez transmises aux bénévoles ne pouvait être, bien sûr, que l'assassin. On parle, bien sûr, vous avez décrit un peu les conditions de la mort de l'enfant, puis on veut pas trop rentrer dans ces détails-là un dimanche après-midi, mais on peut comprendre à tout le moins les raisons qui, à un moment donné, ont fait que les policiers vous ont quand même un peu suspecté d'avoir été impliqué.
Définitivement, ils m'ont suspecté pas un peu, là, énormément.
Donc, en terminant, il faut spécifier que l'enquête s'est soldée et vous n'étiez pas.
Non, faut absolument
coupable.
Mentionner effectivement que M. X n'avait rien à voir. D'ailleurs,
voilà.
il a été
prouvé par une enquête policière.
Oui, exonéré par les services de police. Il n'avait rien à voir avec ce crime.
Et d'autre part, j'aimerais savoir comment vous avez découvert votre don de voyance.
Oh, c'est venu comme ça. Il s'est passé d'autres choses dans ma vie, là. Je veux pas entrer là-dedans. Et puis, à partir de là...
Est-ce que vous étiez jeune?
Pardon?
Est-ce que vous étiez jeune? Est-ce que vous étiez enfant?
Il y a peut-être 5-6 ans avant ça. Et puis, c'est à partir de là, il y avait des choses, des fois, comme des enlèvements d'enfants ou n'importe quoi, là, qui m'intéressaient. J'ai commencé à travailler là-dessus. Puis, Colin, c'était toujours ça, là.
Mm-hmm.
J'ai travaillé dernièrement, il y a 2 ans, je travaille plus tellement sur des cas, mais j'ai travaillé sur 2 cas à Toronto, et puis des enfants justement qui avaient été enlevés de même, dont une jeune fille, là, je crois qu'elle avait une dizaine d'années, elle s'appelait Holly John, avait été enlevée, puis j'avais travaillé là-dessus avec les gens de la police de l'Ontario, malgré qu'ils sont un petit peu plus ouverts, là. Mais pas tellement plus, mais quand même. Et puis, j'ai travaillé sur ce cas-là, puis un autre cas, puis avec succès d'ailleurs.
Monsieur X, merci pour ce que vous avez fait pour les familles de ces jeunes victimes. Et aussi, merci d'avoir participé à l'émission. C'est très apprécié.
Encore une fois, merci, oui, bien sûr, d'avoir été là des nôtres aujourd'hui. Et puis, on se reparle.
Ça m'a fait plaisir parce que c'est Christian Page.
Merci.
Merci, au revoir.
Christian, on va aller à la pause et on va revenir dans deux minutes. J'aimerais qu'on parle du sujet notamment de la semaine prochaine.
Oui, absolument.
Les dons de guérisseurs.
Oui.
Vous en connaissez peut-être un dans votre entourage, ceux qui ont peut-être transmettre de l'énergie invisible.
Oui, absolument.
Et on en reparle dans deux minutes sur le réseau Cogeco. Merci encore à M. X.